Qui a été béni pendant ce temps de partage entre vous? Ça va? Il y a eu des belles choses, des belles expériences avec le Saint-Esprit. Bien. Durant cette troisième session, on va développer un petit peu comment gérer le prophétique dans le sens. Comment exprimer, d'une part, des choses prophétiques, et aussi comment les recevoir, avec une partie sur le fait, une chose biblique qui n'est pas forcément facile, c'est juger les prophéties. Parler des, ce que j'appellerais les mauvaises ou les fausses prophéties, comme c'est dit bibliquement, un petit peu des faux prophètes, mais bon, c'est pas forcément le plus important aujourd'hui. Mais voilà, avoir des indications sur comment tout ça se gère, parce que au final, on a c'est aussi biblique, on va passer là-dessus. Besoin de discerner. Voilà. Donc, il est question de discernement, de qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. D'une première étape, la personne qui reçoit et va transmettre. La deuxième étape, la personne qui reçoit et doit décider de suivre ce qui est dit, de quelle manière le faire. Alors, les manières dont la prophétie va s'exprimer, c'est assez variable. La base, c'est la parole. Et aussi ces silences, des fois. Et une autre manière d'exprimer les choses, c'est aussi les actes prophétiques. On voit pas mal dans l'Ancien Testament les prophètes qui sont amenés à faire des choses prophétiques comme épouser une prostituée. Alors, c'est pas l'appel de tout le monde. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais voilà, l'histoire d'Osée est assez osée de ce point de vue-là, et c'est là que on se dit bon, pour ceux qui ont envie du titre, est-ce que vraiment vous avez envie de vivre ce par quoi certains prophètes doivent passer? Mais voilà, plein de fois, le Seigneur dit. Voilà, fait tel geste, ça va symboliser prophétiquement ce que je veux transmettre. Et puis, là, j'ai décidé de faire court et pas trop prendre d'exemples et de détails, mais les actes prophétiques, c'est une part importante. Ensuite, la danse et les arts, ça va être abordé dans la session tout à l'heure avec Karel. Et dans les arts, il y a aussi tout ce qui est peinture. Vraiment, c'est toute la créativité de Dieu qui peut être utilisée pour exprimer des choses prophétiques. Des choses prophétiques pouvant être des révélations de ce qui se passe au ciel. Simplement transmise au peuple de Dieu, et pour que le peuple de Dieu puisse avoir une connaissance, un aperçu de ce qu'il vit au ciel, et de fait, une peinture qui peut représenter, comme celle qu'il y a au fond, quelque chose de céleste, c'est aussi quelque chose de prophétique. Et un mélange entre l'artistique et la parole, ça va être le chant prophétique, qui va permettre, sous une forme, une mélodie, une musique, d'apporter quelque chose de prophétique, et parfois, simplement la musique, t'en parleras, je pense, qui transmet des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'intellectuel, du mot, mais quelque chose du ressenti, de l'émotion. Donc il y a vraiment beaucoup de manières dont on peut délivrer une parole et exprimer les choses que Dieu veut transmettre. Alors, quelques indications maintenant par rapport à quoi faire quand on reçoit une parole et comment... Quelles sont les questions qu'on peut se poser un peu avant de la partager pour qu'elle soit donnée de la manière dont Dieu l'a prévu? Parce que on peut recevoir une révélation qu'il ne faut pas partager. Ou alors qu'il faut partager plus tard. Et on peut recevoir une parole prophétique pour quelqu'un qu'il faut, par exemple, dire tout de suite le dimanche matin devant tout le monde, ou alors dire à la personne plus tard, quand elle sera toute seule, dans une autre circonstance. Donc, on peut avoir tout un tas dans les événements, de choses variées qui vont faire qu'on va exprimer, délivrer la parole d'une manière ou d'une autre. Et il faut être sensible à ce que l'Esprit-Saint veut qu'on fasse. Et ce n'est pas parce qu'on reçoit quelque chose qu'il faut le dire tout de suite, ou qu'il faut, par exemple, dans un culte, viens, on arrête la louange, j'ai reçu un truc. Attends, il faut réfléchir à la manière dont Dieu veut l'apporter. Et comme j'en témoignais tout à l'heure, ça m'est arrivé d'avoir des pensées prophétiques qui me viennent pendant un culte, et puis de me dire, ah, faut que j'attende, non, bah, pas ce moment-là, là, ça, d'essayer de dire un peu humainement, de dire, ah non, pas ici. Puis à la fin du cul, je dis, bon, bah, je ne l'ai pas dit. Bah, c'est pas grave. Si il y avait quelque chose d'extrêmement important à communiquer à l'Assemblée, Dieu aurait permis que ça se fasse. Si moi, je n'arrivais pas à saisir le bon moment dans le culte, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Où Dieu aura parlé au travers de ceux qui font la louange, au travers du prédicateur. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai reçu un truc, il faut absolument le dire. Et puis, je disais aussi tout à l'heure, on appartient à quelqu'un, il y a des fois où, même souvent, je pense, quand on vit les choses en assemblée, l'Esprit va dire la même chose à plusieurs personnes. Et donc, c'est pas parce qu'on a reçu quelque chose qu'il faut le dire. Et moi, souvent, dans ces contextes-là, j'attends de voir si une personne va apporter quelque chose qui correspond, qui ressemble. Et du coup, d'être après dans le fait de venir confirmer. Parce que ça va permettre que la personne qui a prophétisé soit confortée dans ce qu'elle a reçu, dans ce qu'elle a partagé. Ça va permettre que la personne à qui était destinée la parole se dise « Super, il y a deux personnes qui ont reçu la même chose pour moi ». Donc il y a tout un tas de conditions où il faut savoir est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il ne faut pas dire. Et ça, c'est vraiment la sensibilité au... comme des informations supplémentaires que Dieu donne avec la parole. Et puis des fois, on se rate, on dit un truc et puis ça tombe pas au bon moment et tout ça. Bon, bah, ça s'apprend. Et puis ça s'apprend en faisant des erreurs, comme pour toute chose. Et il faut pas hésiter, mais il y a des éléments que je vais un peu décrire là qui nous permettent d'essayer de saisir un peu... Comment bien délivrer une parole? Alors, des questions à se poser. Est-ce que c'est bien de Dieu? Comme j'ai dit précédemment, on peut être influencé par des choses, on peut avoir nos pensées, notre esprit qui a des idées, mais ce n'est pas de Dieu. Une chose crucial. J'ai dit la prophétie ne va jamais contredire la Bible. Donc, est-ce que c'est dans l'esprit de la Bible? Est-ce que c'est cohérent avec, ce qu'on connaît, avec ce qu'on comprend de la Bible? Ce que je reçois est pour qui? Une fois, il y a un prophète qui s'est mis à dire Dieu a quelque chose pour une personne qui a une chemise à carreaux rouges et blanches. Et il dit à cette personne, nanana, nanana. Et en fait, les gens dans l'assemblée rigolaient, parce que c'était lui-même. Et donc, à un moment donné, Dieu peut vouloir nous parler, mais finalement, si... une fois que voilà, la prophétie avait décrit la personne à qui ça s'appliquait, ben, c'était au prophète lui-même. Et c'est rigolo parce que des fois, ben, on peut ne pas entendre Dieu pour nous-mêmes et puis il peut se servir de choses. Puis c'est l'humour de Dieu aussi de faire des petites manigances comme ça pour qu'en même temps, ce soit parlant, bénissant et puis interpellant quand même. Donc c'est pour qui? Ça peut être pour une personne, ça peut être pour l'assemblée entière, ça peut être pour la ville. Donc, et puis quel est le bon moment pour partager? Et est-ce qu'on doit dire tout ce qu'on a reçu ou pas? Parce qu'on peut, recevoir une révélation, une parole prophétique, et on va dire, allez, je te donne tout ce que j'ai reçu. Et en fait, des fois, Dieu nous donne des choses qu'il ne faut pas dire, et Dieu nous montre des choses dont il faut dire une partie. Donc, quand on va grandir dans le don prophétique, il y a aussi ce discernement de dire... ça c'est bon, je pense que ça c'est le bon moment de lui de dire ça à cette personne, mais pas plus loin. Parce que la personne, on veut lui laisser la liberté d'interprétation ou de compréhension. Et puis des fois c'est bien d'aller jusqu'au bout pour que la personne sache que Dieu veut transmettre quelque chose de précis pour une situation précise. Pour donner un exemple, il y a une personne qui est venue dans notre église quand on avait une réunion, un gars qui n'était pas de notre église, et je reçois une image pour cette personne, et en fait, c'était une image qui concernait son couple. Le fait que son couple venait d'être brisé, et puis, etc. Mais j'ai donné l'image sans lui dire que ça concernait son couple, parce que je voulais lui laisser à la personne le soin de s'approprier et de faire le lien entre la révélation symbolique de la parole et sa propre vie. Est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas. La personne, quand je lui ai demandé est-ce que ça te parle, il m'a dit oui, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie de couple. Ça aurait peut-être eu un impact encore plus fort si j'avais dit ton couple vient d'être brisé et puis que ce soit une manière de montrer encore plus précisément que Dieu connaît les détails. Mais après, c'est aussi à notre choix. Dieu nous dit des choses. Et on garde notre libre arbitre dans la manière de gérer la prophétie, mais il faut le faire selon le cœur de Dieu, quoi. Donc, voilà, c'est un exemple tout bête, mais on peut avoir quelque chose et pas forcément tout dire. On peut avoir une interprétation, mais vouloir laisser la liberté à celui qui reçoit de saisir cette interprétation par lui-même. Donc voilà, tout ça, ça se travaille au cas par cas, on va dire. Alors, l'important, quand ça se passe en public, c'est quand même de faire ça de manière suffisamment ordonnée. Et on va revenir sur quelques enseignements de Paul, encore dans 1 Corinthiens 14, au verset 29-30. « Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. » Alors on parlera un petit peu après de comment on va juger. Deux ou trois parlent, bon, on ne va pas tous parler en même temps, prophétiser en même temps. si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Il y a des règles de gestion où on peut être cinq à recevoir quelque chose, peut-être différent, peut-être équivalent, et on ne va pas tous se mettre à parler en même temps. Ça paraît tout à fait logique. Ça l'était peut-être pas pour les Corinthiens, donc Paul est obligé de le dire. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, il y a des principes très simples. Un peu plus loin, dans le même chapitre, verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Donc, là, Paul dit « N'empêchez pas, mais qu'il y ait quand même quelque chose qui soit dans une certaine cohérence, dans un certain ordre. » Et il est question aussi après de soumission. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et en fait, la manière, je ne sais plus à quel moment j'en parle, la manière d'apporter une parole dans l'église, par exemple, ou lors d'une rencontre, il faut être soumis à la personne qui est en responsabilité de la rencontre. C'est la première chose. Et donc, ce que j'invite à faire, c'est pas de dire il est où le micro, je vais dire quelque chose, ou même des fois de s'arrêter à dire pasteur, j'ai une parole prophétique, est-ce que je peux parler? Mais vraiment de dire j'ai une parole qui va dans tel sens, est-ce que ça te semble opportun de le dire ou pas? Moi personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le responsable de la célébration m'a dit bah, « Attends, on verra tout à l'heure, ou là, c'est pas trop le moment. » Et donc, finalement, j'ai pas dit ma parole, j'ai pas dit ce que j'avais reçu, mais c'est pas grave. Je veux dire, personne n'est lésé, sauf si moi, j'estime que j'ai reçu quelque chose, et donc, il faut le dire. J'ai pas à revendiquer de parler plus que le pasteur ou ceux qui sont prévus d'être intervenants. Donc il y a une histoire de soumission. Peut-être que le responsable a eu tort de ne pas me laisser parler, mais ce n'est pas grave. La soumission, c'est d'être obéissant à nos autorités, même quand elles ont tort. Donc ce n'est pas à moi de juger il a eu tort, il n'a pas eu tort de me laisser parler, de me laisser la place. Je dis juste... Ben voilà, ça s'est pas fait. Une fois, j'étais dans une rencontre de notre réseau d'église, et puis c'est Jean-Marc Potenti qui était là en autorité sur cette rencontre. Alors je suis allé le voir, j'ai dit Jean-Marc, j'ai reçu quelque chose et tout. Il me dit, tu sais Étienne, ces genres de rencontres, il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup de choses, donc on peut pas laisser tout le monde dire tout ce que tout le monde reçoit, quoi. Je dis bon, d'accord. T'as raison, certainement. Donc, il ne faut pas essayer de guerroyer pour avoir sa part, sa minute de micro, etc. Il faut simplement aussi se dire que le Saint-Esprit peut nous parler sans qu'il y ait obligation de transmettre ce qu'on a reçu. Ou alors, peut-être que je n'ai pas compris la manière dont il fallait que je l'apporte. Voilà. Donc, il se passe des choses comme ça. Ça demande du discernement. Et ça demande de la soumission. 1 Corinthiens 14, 32 dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. » c'est pas que c'est une autre dimension, mais c'est... oui, on peut avoir un pasteur qui est en responsabilité, en autorité sur une rencontre. Et à côté, il y a aussi les prophètes qui ont un œil peut-être plus critique sur... le don de prophétie, etc. Et là aussi, il y a une histoire de soumission, de soumission des prophètes aux prophètes. Voilà. Le contenu, forcément, c'est quand même ce qui est le centre de la prophétie. Et il faut veiller J'ai eu des formations de certains ministères prophétiques qui disent il ne faut pas parler négativement, il ne faut pas parler des choses négatives dans les prophéties. Alors, je mettrai un bémol parce que, par exemple, si Dieu révèle qu'une personne est dans le péché, c'est probablement parce que Dieu veut sortir cette personne du péché. Et donc, si Dieu l'a révélé, c'est qu'il faut se servir de cette information, de cette révélation, pour aider la personne. Et le fait de dire « Dieu me révèle que tu vis telle chose », comme la dame dans la vidéo de ce matin qui avait sans doute un peu touché à l'occultisme, ça peut être tout un tas de choses. C'est délicat, il faut venir avec amour, mais l'idée quand on reçoit une révélation comme ça, c'est ou que ce soit une autre situation difficile, c'est de dire quelle est la réponse ou la solution que Dieu veut apporter. Et c'est la manière d'apporter une parole qui exhorte, qui édifie, tout en se permettant de dire la vérité que Dieu veut mettre en lumière. Donc, le fait de dire, il ne faut pas dire des choses négatives, il ne faut pas parler du péché, des choses bon. Il faut juste savoir que l'objectif, c'est que la personne puisse grandir en Dieu, puisse être libérée. Et donc, si ça passe par le fait de dire, Dieu m'a révélé quelque chose dans ta vie qu'il faut changer, ben, il faut le faire avec amour, mais il faut se permettre de le faire. Par contre, c'est vrai que c'est pas pour dire Dieu m'a montré, toi tu fais ça, c'est pas bien du tout, au revoir. Là, c'est un peu raide. Dieu veut amener à la sanctification, et donc on doit être dans la manière de dire qui permet à la personne de... En fait, l'idée, c'est de, comme je disais à la séance précédente, de montrer quels sont les standards auxquels Dieu nous appelle dans une vie sainte, de sanctification progressive, et du coup de voir ces standards et dire « Ah oui, en effet, j'y suis pas, donc je vais demander à Dieu de m'aider à abandonner des mauvaises choses ou à prendre des décisions pour faire des bonnes choses. » Alors, comment apporter une parole ? Là, on était en groupe. Je pense que ça s'est bien passé pour tout le monde. Il y a des histoires de style. Personne ne dit rien, donc je prends ça pour un oui. Je ne sais plus de quel livre j'ai tiré ça, mais j'ai trouvé ça un peu amusant. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un vocabulaire de la version second ou une intonation théâtrale. Dieu vous dit que c'est pas la manière, c'est pas le style, et on a l'impression qu'on va avoir plus d'autorité. Non, enfin, c'est simplement dire les choses avec notre manière habituelle de parler. C'est pas le ton, c'est pas le style, et en même temps, ça veut aussi dire que si quelqu'un apporte quelque chose dans un style qui vous dérange, bah tant pis pour vous. C'est son style à lui. Peut-être qu'il serait bon qu'il l'améliore s'il y a des choses qui ne vont pas, mais si vous entendez quelqu'un prophétiser dans un style qui vous dérange, c'est là qu'il faut faire le tri entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, et puis c'est tout. Mais rejeter une parole en disant lui, il dit ça, c'est n'importe quoi. Regarde qu'est-ce qu'il raconte, comment il fait. Et puis du coup, on laisse tomber la parole de Dieu parce que la manière dont elle est apportée, ça ne nous convient pas. C'est dommage. Donc bon, le style, c'est autant pour ce qu'on va, la manière dont on va le dire ou dont on peut recevoir. Tout à l'heure, je parlais de transmettre le cœur, l'émotion aussi de Dieu. C'est le Saint-Esprit peut communiquer une parole avec un ton qu'il est bon de pouvoir reproduire, Et ça peut être un ton très ferme, comme un ton très doux. Et la manière d'apporter la parole va être importante. Voilà, je ne reviens pas en long en large sur le fait de faire ça dans l'amour. Notre motivation étant toujours de faire ressortir le meilleur de la personne. Et autant c'est pas utile de commencer en disant voilà, ainsi parle l'Éternel, mais en même temps on est en train de le faire. Donc des fois ça peut être bon quand on a atteint un niveau de foi et de conviction que les mots qu'on va prononcer sont ceux que Dieu veut qu'on prononce, de pouvoir dire « l'Éternel dit, le Seigneur veut vous dire ». Et il ne faut pas s'en empêcher, parce que sinon, ça veut dire qu'on est en train de nier qu'on est prophétique, dans un sens. De dire oh, « je ne peux pas dire que Dieu dit, puisque c'est moi qui dis ». Oui, mais en même temps, tu dis quelque chose de la part de Dieu. Donc en même temps, si on a cette facilité un peu trop grande à dire « Dieu te dit, et Dieu te dit, et Dieu te dit, et Dieu me dit », à tout va sans discernement, là c'est l'opposé, et c'est pas bon non plus. Et le problème, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce « Dieu dit », c'est qu'à partir du moment où on dit « Dieu dit », on empêche la liberté de recevoir et d'appliquer la parole. Parce que la personne va se dire « j'ai pas le choix, Dieu a parlé ». Mais si après ce Dieu dit, on rajoute des choses humaines, on met des interprétations qui vont plus loin que ce que Dieu veut dire, la personne, elle va tout prendre en bloc. Elle va prendre chacun de nos mots. Puis surtout maintenant, on sort le téléphone portable, on enregistre la prophétie. Et donc on va dire, oh là là, il a dit tel mot, tel mot, tel mot. Dieu a dit, j'ai pas le choix, purée, qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc il y a ce discernement à avoir quand on va apporter la parole. Attention, parce que si la personne reçoit la parole en disant « Ouh là là, tout ce qui est dit, j'ai pas du tout le choix, j'ai pas de liberté », ça peut compromettre pas mal de choses par rapport à la manière dont la personne va vivre la parole qu'elle reçoit, quoi. Je sais pas si je suis clair. Bon. Donc, en fait, là où je suis pas clair, c'est que... vous êtes obligé, avec le Saint-Esprit, de savoir comment le dire, selon les cas, au cas par cas. Et il y a aussi cet aspect de parler à la première personne. Dieu dit que, et on peut donner une parole. Puis on peut venir en disant, moi le Seigneur, je vous dis. En parlant à la première personne, on prend encore plus une position de prophétique, puisque on est en train de dire moi, là, les mots, moi, j'incarne Dieu devant vous et je dis quelque chose. Donc c'est délicat de le faire, mais en avançant dans le don prophétique, on peut discerner quand Dieu a envie d'être vraiment impactant à ce point-là. Donc il y a toute une manière d'apporter les choses, et on peut donner la prophétie en disant « je crois que Dieu me montre telle chose pour toi ». Et puis on peut dire « Dieu te dit que ». Puis on peut dire « moi l'Éternel, je te dis ». Donc il y a toutes ces différentes manières d'apporter la même révélation, la même interprétation, mais avec des mots, des positionnements qui vont être différents et qui ont besoin d'être choisis au cas par cas, selon ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Je reviens un petit peu sur les paroles négatives. Il se peut... En fait, on peut être attentif au Saint-Esprit... Et comme sélectionné inconsciemment, des choses qui vont correspondre à ce qu'on vit. Et peut y avoir une personne dépressive qui a un don de prophétie et qui va se mettre à donner des prophéties dépressives, quoi. Parce que elle va pas être forcément attentive à la lumière, aux choses que Dieu veut apporter dans le positif, dans le, parce que on va avoir une attitude, on va être fermé à certaines, et donc à un moment donné de se questionner, de dire oh tiens, en ce moment je donne pas mal de choses pas très joyeuses, pas très une manière aussi d'avoir une introspection et de se dire est-ce que je vis avec Dieu quelque chose qui est comment dire, qui est suffisamment large, suffisamment ouvert. Et à un moment donné, de se dire, si on reçoit beaucoup de choses négatives, beaucoup de paroles de jugement, d'avoir une petite remise en question, à se dire, est-ce que mon cœur, mon attitude, est-ce que mon âme aussi va bien ? Et je n'ai pas parlé de l'âme, parce que la prophétie, c'est par l'esprit. Mais on prophétise avec qui on est, avec tout notre être. Et si on n'est pas bien, si notre âme est pas bien, comme je dis, dans de la dépression ou autre chose, on peut sélectionner ou on peut interpréter des choses d'une manière peut-être voilà, un peu plus sombre qu'il ne faudrait. Et du coup, il y a des périodes où on peut avoir un bon don de prophétie, puis il y a des périodes où il faut se taire. Être aussi en vérité avec soi-même et se dire je ne suis pas dans une période où je vais pouvoir être une bénédiction pour les autres parce que moi je ne suis pas bien et que je sais que ça va influencer ce que je vais pouvoir dire. Donc c'est pas parce qu'on a un don de prophétie qu'on va prophétiser tous les jours. Et c'est pas parce qu'il y a une période où on a prophétisé tous les jours que ça va être le cas mois après mois. Donc il y a des saisons. Et il faut aussi jouer, vivre avec ces saisons que Dieu nous fait traverser. Un autre point, c'est la redevabilité. Alors on peut recevoir une parole pour nous-mêmes, et puis du coup se dire, je l'ai reçue directement, donc tout va bien. Et en fait, on peut se tromper sur l'interprétation, sur la manière de gérer la parole. Donc quand on reçoit une parole pour soi-même dans notre temps de prière ou quoi, c'est très bénéfique de la partager à des amis, au pasteur, de dire qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois que je l'ai comprise ? Est-ce que tu crois que je l'ai bien interprétée ? Et donc d'un peu sortir du fait de dire Dieu m'a dit, parce que des fois Dieu a pas dit, et puis c'est nous qui avons des pensées et c'est nos pensées, et donc de venir les soumettre à un ami, à un pasteur, à dire j'ai l'impression que Dieu m'a dit, est-ce que tu penses que j'ai bien reçu, est-ce que tu penses que j'ai bien compris, c'est une manière aussi de gérer une parole qu'on peut recevoir pour soi-même et une manière de rester aussi dans cette soumission. Et puis le pasteur a autorité sur nous, on a choisi une assemblée avec un pasteur, Dieu a mis un responsable, et comme dit Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. En effet. Donc voilà, nos conducteurs sont aussi là pour nous aider dans ce qu'on peut recevoir, soit qu'on a reçu directement du Saint-Esprit, ou soit de dire pendant mes vacances, j'étais là-bas, j'ai eu une parole, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une bonne manière de pouvoir gérer les prophéties, les paroles qu'on reçoit. Alors justement, quand on va recevoir une parole, il faut d'abord savoir que Dieu est hors du temps. Et c'est une première chose compliquée. Mes parents pourront vous le dire. de se dire, mince, ça fait 40 ans quand même qu'on a eu cette parole. Et entre les paroles que Abraham a reçues et l'accomplissement des paroles, il y a eu quelques décennies, et puis après, quelques siècles pour certaines. C'est l'occasion de dire que des fois, on reçoit une parole, pas pour nous-mêmes, mais pour notre descendance aussi. Il ne faut pas être frustré de dire « mais je ne le vois pas, je ne le vois pas », parce que ça peut, comme souvent dans la Bible, être quelque chose pour les générations qui suivent. Et c'est bon aussi, mais il faut du coup s'en rendre compte, le comprendre. Il ne faut pas vouloir aider Dieu. Sarah a voulu aider Dieu, ça s'est mal passé. Elle a voulu accomplir la promesse en donnant sa servante à Abraham et ça s'est mal passé. Donc, en même temps, quand on reçoit une parole, ça peut très souvent nous demander de nous positionner, des fois de nous mettre en marche, mais pas forcément tout de suite. Donc il y a tout un travail de réflexion, de discernement, de prière sur les paroles qu'on peut recevoir pour savoir comment on réagit. Sarah a mal réagi, quand elle a rigolé, il y a eu une prophétie, elle en a ri. C'était pas la bonne attitude. Donc il y a nos attitudes quand on va recevoir une prophétie est vraiment très importante. Un autre point, quand on veut gérer, finalement, pour conclure là-dessus, ce que Dieu voulait quand il a dit à Abraham et Sarah qu'ils auraient un enfant, c'est qu'ils puissent collaborer avec lui, c'est-à-dire de faire les choses de la bonne manière au bon moment, plutôt que de vouloir accomplir par eux-mêmes, et finalement de ne pas attendre le temps que Dieu avait fixé. En même temps, du coup, Dieu fait rarement les choses par lui-même. Il va nous impliquer dans la réalisation de ce qu'il a prophétisé sur nos vies. Donc, il y a cette espèce de balance entre Dieu dit quelque chose, il veut que je me mette en marche, mais en même temps, c'est lui qui accomplit, mais au travers de moi. Donc, c'est voilà, dans la prière, dans la recherche de la gestion de la prophétie, que Dieu va nous montrer les clés importantes à la manière de gérer cette prophétie. Dieu a sa part, et nous on a la nôtre, et puis il faut savoir quelle est notre part à nous, quoi. Alors j'ai quelques points sur qui sont très juste pragmatiques sur la manière de s'approprier une parole. Est-ce que la prophétie fait écho dans mon esprit? Est-ce que je suis en paix avec ce qui m'a été transmis? Et j'ose dire que des fois, on ne l'est pas. On reçoit des choses qui nous dépassent complètement, qui nous perturbent dans notre vision. Mais quand la prophétie vient là pour confirmer des choses, c'est là qu'on peut se dire « Ah oui, ça... » Ça me conforte dans ce que j'ai. Donc, voilà, est-ce que ça vient confirmer des choses que j'avais déjà dans mon cœur ou que d'autres ont déjà dit? Des fois, il faut attendre des confirmations, surtout quand on se dit « Ouh, punaise, là, va falloir poser des actes compliqués. » Il faut se permettre de dire à Dieu, comme Gédéon, avec sa toison, est-ce que la rosée est dessus? Ah oui, elle est dessus. Ah bon, alors demain je recommence. Il ne faut pas qu'elle soit dessus. Ah elle n'est pas dessus. Donc voilà, Dieu est ouvert au fait qu'on ait des fois besoin de confirmation. Et il faut pas. Des fois, il faut les demander, puis attendre que ça arrive. Parce que ce qui n'est pas conviction est péché, c'est biblique. Donc on ne va pas aller bouger sur une parole alors qu'on n'est pas convaincu. Et il faut juste être à l'écoute et prier là-dessus. retenir ce qui est bon, c'est-à-dire faire un peu le tri entre des choses qui paraissent pas tout à fait collées et puis d'autres. Mais des fois, on reçoit une parole, une partie ne colle pas, et puis elle va coller plus tard. Donc c'est pas parce que ça correspond pas qu'on se dit je comprends pas et ça correspond pas que c'est faux. C'est peut-être aussi pour plus tard. Alors, quelques points sur ce qui peut empêcher l'accomplissement d'une parole prophétique. Une parole prophétique ne s'accomplit pas toujours. Dieu a parlé, il peut dire j'ai envie de faire telle chose, mais comme si ça concerne notre propre vie, on peut décider de ne pas lui obéir, de ne pas l'écouter. Forcément, il y a des choses qui risquent de ne pas se réaliser, qu'il voulait voir réaliser. On peut ne pas croire que c'est Dieu qui parle, déjà. On peut ne pas croire la promesse que Dieu a donnée, comme Sarah qui a rigolé. On peut avoir peur d'être déçu parce que finalement ça ne va pas se réaliser, de dire oh, « ouais, ça j'ai envie de le vivre, mais en fait, je n'ai pas l'impression, j'ai pas envie d'être déçu, donc je ne vais pas y croire. » On peut ne pas vouloir qu'elle s'accomplisse et même rejeter la parole qui est reçue, comme Jonas. Ah non, moi je ne veux pas vivre ça, je m'en vais. On peut vouloir que Dieu intervienne dans notre situation, mais à notre façon. Là, c'est l'exemple de Naaman qui était très déçu, le pauvre. Il a été guéri, mais pas de la manière qu'il s'attendait à être guéri. Il dit, ah, je ne suis pas content. Mais t'es guéri quand même. Donc, laisser Dieu faire à sa manière. Si on veut faire à notre manière, on va se dire, on risque de coincer la réalisation. Ne pas croire que Dieu va agir au moment qui nous semble le meilleur. Des fois, on est là, vas-y, Seigneur, vas-y. Ah, trop tard. Ben non. Ça ne s'est pas passé au moment où on voulait, mais Dieu pourra l'accomplir plus tard. On peut ne pas croire aussi que Dieu va réaliser quelque chose de surnaturel ou de miraculeux. Et puis, on peut désobéir à Dieu, simplement. Ne pas suivre ce qu'il nous dit de faire, on peut s'en détourner. Et donc la parole reste prophétique, parce que c'est une parole de la part de Dieu. Et après on va dire, mais c'est pas accompli, c'est un faux prophète. Mais non, la parole était juste, la parole était de Dieu, elle n'a pas pu s'accomplir parce que la personne à qui c'était destiné n'a pas suivi ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Ça peut arriver. Moi, je me rappelle d'une soirée ici, il y a... Oh là là, c'est vieux. On avait eu une rencontre, c'était une rencontre de jeunes. Et on était, je ne sais pas, 20-25 jeunes. Et en fait, les responsables avaient prié. Et puis, on avait passé une soirée où on avait partagé des paroles prophétiques pour chacune des personnes qui étaient là. Dont un certain nombre ne suivent plus Dieu. Et on peut se dire, bon, bah, on a reçu une fausse prophétie. Moi, j'ai des noms en tête, des personnes en tête. Et oui, Dieu, bon, on croit en Dieu, mais alors, bon, le reste, ils ne vivent pas les choses qu'on a pu leur communiquer. Est-ce que c'était des fausses prophéties? Certainement pas. Peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait justes. Mais les personnes ne vivent pas ce qui leur a été prophétisé parce qu'elles ont choisi de ne pas le vivre à un moment donné. Donc il y a ces aspects-là aussi. Est-ce qu'on veut vivre ce qui nous est prophétisé ou pas? On peut recevoir une prophétie qui s'accomplira pour d'autres. C'est comme je disais par rapport à Abraham. Ben voilà, tu auras plein d'enfants. Bon, résultat, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais sa postérité, quand Dieu dit à Abraham, je te donne ce territoire, bon, ben lui, il y a vécu, mais ça lui appartenait pas. Et ça a appartenu après, 4 siècles plus tard, quand Israël a conquis Canaan. Donc, des choses qui se réaliseront, qui s'accompliront pour d'autres personnes. Je ne sais plus à quelle heure on finit. Ouais, j'ai encore un peu de temps. S'attendre à recevoir la réalisation. Il y a un épisode amusant où les disciples sont en train de prier parce que Pierre est en prison. Ils sont en train de prier pour qu'il soit libéré. Pierre est libéré, il vient toquer à la porte. Il y a la servante Rode qui, elle l'entend, elle lui ouvre même pas. Elle a cru tout de suite, elle a su, elle a dit, oh, c'est Pierre, ça y est, c'est fait, c'est réalisé, c'est accompli. Bon, elle lui a pas ouvert. Mais elle va le dire ça aux autres, ils disent, ah non, c'est pas possible, c'est son fantôme. T'es en train de prier, pourquoi ? Ça s'accomplit, et finalement, tu reçois pas la réalisation comme l'exaucement en tant que tel. Quand même une situation assez amusante. Mais elle aurait pu tout à fait dire « Oh là là, c'est un soldat romain qui se fait passer pour Pierre parce que c'est pas possible qu'il soit libre et puis il veut juste qu'on lui ouvre la porte pour nous arrêter tous. » Donc elle a reçu que c'était vraiment l'accomplissement de cette libération. Donc voilà, il y a aussi cette manière de s'attendre à voir la réalisation qu'on peut avoir ou pas. Il y a une manière aussi de gérer une prophétie qu'on reçoit en posant un acte de foi. J'ai entendu un témoignage récemment. C'est une dame qui avait une fille donc dans une famille chrétienne et sa fille était partie dans la drogue, les mauvaises relations, etc. Et elle a prié pour qu'elle puisse trouver un mari chrétien, sortir de tous ses problèmes. Et son geste prophétique, je pense qu'elle avait reçu vraiment que c'est ça qui allait se passer pour sa fille. Elle, quand elle s'est mise à prier pour ce sujet, elle a commencé à mettre de l'argent de côté pour dire « c'est pour la robe de mariée de ma fille ». Et 3 ans après, sa fille était mariée avec un chrétien. Donc, on est aussi amené, comme je disais, dans des actes prophétiques. Et en fait, agir avec la foi sur une parole qui est reçue, c'est poser des actes qui montrent qu'on a confiance en la réalisation, en l'accomplissement. Et parfois, comme là, de dire, ben, moi je pose un acte. C'est ma manière de montrer que j'ai foi en l'accomplissement de la parole. Donc les actes prophétiques encore là qui sont importants pour que ça fasse avancer les choses vers les accomplissements. Je reviens rapidement sur le temps entre la prophétie et sa réalisation. Dieu a un temps fixé pour toute chose. Et le temps qui s'écoule entre les deux nous permet aussi parfois d'approfondir notre relation avec Dieu. Parce que on peut se retrouver fixé sur la promesse de Dieu et plus sur le Dieu de la promesse. Et l'important, c'est vraiment, Dieu veut faire quelque chose, oui, mais il veut faire quelque chose avec nous, qu'on soit partenaire. Pour nous, au travers de nous. Et on peut imaginer n'importe quelle situation où, par exemple, quelqu'un reçoit une parole prophétique, tu vas monter une association caritative, machin, et puis que la personne y aille à fond, et puis finalement délaisse un peu sa relation à Dieu pour se donner à l'appel qui a été donné. Mais ce que Dieu veut, c'est que les choses se fassent dans un partenariat, dans une relation qui augmente, alors qu'on peut tout à fait se focaliser sur la parole Et des fois même cela tournait en boucle en disant Seigneur accompli, Seigneur accompli, Seigneur accompli, et on passe à côté de tout ce que Dieu veut qu'on vive parce qu'on est focalisé sur une parole prophétique. Donc il faut des fois apprendre à laisser de côté et puis laisser Dieu agir dans le temps qu'il a prévu. Il y a aussi le fait que si l'accomplissement d'une prophétie tarde, c'est parce que Dieu nous prépare à la recevoir. Nous prépare dans notre caractère en particulier pour qu'on puisse rentrer dans l'accomplissement de la parole prophétique en étant prêt à la vivre. Pour reprendre cet exemple, tu vas monter une association caritative, on peut tout à fait se lancer dedans parce que Dieu a parlé, on y va. Et puis finalement, sans avoir été préparé dans notre caractère, dans notre circonstance de vie, notre travail, notre famille, etc., sans que les choses soient en place pour que ça s'accomplisse correctement. Du coup, il y a ce temps de préparation à la réalisation qui peut être aussi importante. À ce propos, Jacques 1, versets 2 à 4 dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Donc c'est un appel à être patient et à se laisser équiper pour les choses auxquelles Dieu nous appelle prophétiquement. Dans le temps qui nous reste, on aura un moment de questions-réponses, même si je n'aurai certainement pas réponse à tout, si vous avez des questions. Je voudrais juste faire un point par rapport à tout ce qui est juger les prophéties. Il y a des fausses prophéties. Il y a des faux prophètes. Et il faut qu'on arrive à discerner les choses. Et aussi à se dire que on peut faire des erreurs sans être faux prophète. Sinon, il ne resterait pas grand monde dans le domaine, puisqu'on est tous humains, on fait tous des erreurs. Donc il y a plusieurs éléments à ce sujet-là. Un ministère surnaturel peut sembler désordonné, mais il ne faut pas pour autant le rejeter. Là, je peux parler du style, par exemple. N'empêche que 1 Thessaloniciens 5, au verset 19, dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Voilà, les choses peuvent nous sembler pas forcément bonnes, pas forcément, mais on est là pour retirer ce qui est bon. Par contre, il faut vraiment qu'on puisse discerner comme dit 1 Corinthiens 14, 29, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, on a un travail de discernement à faire. Alors bon, il y a des exemples de fausses prophéties, mais en particulier celle que j'avais partagée cet été dans une prédication avec ces prophètes du temps de la déportation qui disaient « Vous inquiétez pas, dans 2 ans, tout le monde sera revenu à Jérusalem, etc. » Et puis, finalement, pas du tout. Finalement, ce qui a été dit après prophétiquement et ce qui a été vraiment réalisé, Dieu a dit, ce sera 70 ans de déportation. Donc, il y a des fausses prophéties. Et il peut aussi y avoir des erreurs d'interprétation, de transmission. Mais tant que le cœur de la personne est bon, tant que ses motivations sont bonnes, on ne va pas rejeter la personne ou son appel. Il y a tout ce qui est des bonnes intentions. Comme j'avais aussi partagé à un moment donné dans mon expérience, des gens qui m'ont dit des choses par rapport à mon avenir professionnel, encourageantes parce que je voulais que ça continue dans une direction. Et donc on m'encourageait gentiment dans cette direction. Mais Dieu a totalement fermé la porte et je fais autre chose maintenant en termes professionnels. Donc ces gens avaient des bonnes intentions, mais on aurait pu, et je pense que certains me l'ont partagé dans un sens de parole prophétique, ça ne l'était pas. C'était pas des paroles prophétiques, c'était des paroles qui se voulaient encourageantes, mais à proclamer des choses sur mon avenir qui n'étaient pas ce que Dieu voulait réaliser. Donc, à un moment donné, on se rend compte que non, ils ont eu tort dans ce qu'ils ont dit. Et je pense qu'il aurait été bon, mais après, il s'est passé plusieurs années, donc je n'ai pas eu l'occasion de dire, en fait, c'était gentil de m'encourager, mais tu t'es trompé, quoi. Mais dans notre apprentissage du prophétique, il faut, comme on disait, les prophètes sont soumis aux prophètes, il faut se permettre, avoir l'humilité d'accepter que quelqu'un vienne nous dire, là, je pense que c'était pas juste, parce que ça correspond pas, etc. Après, c'est toujours délicat, parce qu'on peut se dire, on va pas arriver en disant une semaine après, c'est faux ton truc, ça s'est pas passé comme ça. Parce que des fois, il y a le temps de la réalisation, etc., le temps de notre propre compréhension. Mais quand clairement quelque chose a été dit, et puis Dieu a clairement montré que ce n'était pas ça, il faut se permettre d'aller dire aux frères, à la sœur, c'est pas tombé juste, pas en jugeant, mais en disant, en encourageant à être peut-être un peu plus aiguisé dans l'écoute du Saint-Esprit. Et puis, il faut soi-même être prêt à recevoir ce genre de retour. Donc, une histoire de soumission et d'humilité. Et donc, on peut avoir des bonnes intentions pour les autres, mais attention de ne pas dire « Ah, je pense que Dieu te dit que il va se passer ça dans ta vie, et puis en fait, on veut encourager quelqu'un dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. » Les prophètes peuvent donc faire des erreurs sans être de faux prophètes. Entre recevoir, comprendre, interpréter, dire, la personne qui reçoit, il y a tout un tas de choses qui font que il y a des éléments qui peuvent passer à côté, être pas tout à fait justes. Et c'est pas pour ça qu'il faut rejeter toute la parole prophétique. Et c'est pas pour ça qu'il faut aussi rejeter la personne qui a apporté la parole, en sachant que si elle a fait une erreur, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas inspirée, qu'elle n'a pas un don, et que c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de l'écouter définitivement, quoi. Alors, quelles sont les indications pour pouvoir juger les paroles prophétiques? J'ai 7 points. La première chose, c'est que la parole prophétique doit être biblique, c'est-à-dire qu'elle doit correspondre, entre guillemets, à l'ADN de la Bible, à l'esprit biblique, et que ça ne peut pas être en désaccord avec ce que la Bible a clairement affirmé. Après, il y a un aspect qui peut être l'aspect extra-biblique que j'ai résumé là en mettant toute la Bible est en Dieu, mais tout Dieu n'est pas dans la Bible. Et donc il peut y avoir des choses qui ne sont pas dans la Bible mais qui sont de Dieu. Alors quelque chose qui ne va pas contredire la Bible mais qui vont peut-être par exemple se rapporter à des pratiques qui ne sont pas dans la Bible, mais qu'on vit communément de manière saine en tant que chrétien, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, des indications intéressantes. Si on a une parole prophétique qui va être justement dans le sens un peu directif, de dire « je reçois que tu vas être missionnaire en Afrique », On peut dire que c'est quelque chose d'extra-biblique, dans le sens où on ne va pas aller lire dans la Bible qu'un tel doit aller être missionnaire. C'est quelque chose de plus global dans la vie chrétienne. Donc, si on reste dans cette dimension divine, c'est une indication que la parole est bonne. C'est sûr que si on reçoit une parole en disant « je crois qu'il faut que tu ailles braquer la BNP demain matin », on comprend tout de suite que c'est en dehors de cette sphère du royaume de Dieu, en fait. Il y a un troisième point qui est justement une indication pour juger la prophétie, c'est quelque chose qui soit très anti-biblique. Même si, c'est dans Galates 1:8 qu'on voit ça, même si une parole est présentée par Paul ou à un ange, si c'est contraire à la Bible, ça doit être rejeté. Il y a un point qui est que la parole doit rendre témoignage à l'esprit de la personne qui reçoit. C'est dans Romains 8:16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et une indication pour juger une parole, ça peut être le fait que, oui, on reçoit la parole et que c'est comme si le Saint-Esprit vient nous dire « Voilà, cette parole, elle est pour toi. » Et en fait, ça peut être le cas d'une rencontre où il y a une parole prophétique qui est donnée, mais sans dire à qui. On est 200 dans la salle, Dieu dit à une personne telle chose. Ben, à qui il le dit ? C'est le Saint-Esprit qui va en nous rendre témoignage que cette parole est pour nous. Donc ça, c'est une indication, justement, pour juger une parole. C'est pas juger d'une manière critiquée négativement, mais faire la part des choses, discerner. Donc le Saint-Esprit en nous qui vient nous confirmer qu'une parole est pour nous. Une autre indication, c'est le fruit de la parole doit être que la personne qui reçoit s'approche de Dieu et de son peuple. On voit ça dans Philippiens 3:8. Il n'y a pas une parole prophétique qui va faire en sorte qu'une personne s'éloigne de Dieu ou s'éloigne du peuple de Dieu. Les prophètes et le leadership avec qui nous sommes en relation doivent être d'accord avec la parole et son interprétation et son application, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, l'interprétation d'une révélation prophétique appartient à Dieu. Donc nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour connaître le sens de la parole et ce qu'on doit en faire. Parfois, on n'obtient l'interprétation qu'une fois que la parole est accomplie. Ça arrive. Des fois, plus tard, on fait « Oh mince, ça voulait dire ça ». Et puis nous, on s'est imaginé d'autres choses. Donc, dans ces coups de temps-là, bah, c'est a posteriori, on dit « Ah oui, tiens, on a une parole prophétique, on savait pas... Il s'est passé quelque chose, bah, finalement, oui, ça s'est réalisé. » Donc, a posteriori, on dit « Ah oui, ça, c'était vraiment une parole prophétique. » Et ça nous permet de faire ce discernement-là. Dieu avait vraiment parlé. On peut juger l'interprétation qui est... Après, là, comme je disais, dans les étapes, on peut avoir la révélation, puis après, l'interprétation peut venir. Et on peut avoir tendance, surtout ceux qui aiment bien parler comme moi, à en rajouter un peu. Et des fois, il faut savoir se taire. Et du coup, quand on reçoit une parole, on reçoit l'interprétation, s'il y en a une qui est donnée. Et on peut aussi se dire, oh là, la révélation, là, ça me parle. Par contre, la manière dont on m'a donné l'interprétation, je ne suis pas convaincu. Et donc, de faire comme ça un travail de discernement sur l'interprétation. Parfois, Dieu donne une parole, non pour révéler une destinée, mais pour tester notre cœur. Et c'est là qu'il faut aussi prendre du recul. Quand dans Exode 32, il y a Dieu qui dit à Moïse qu'il va faire mourir le peuple et se refaire un peuple à partir de Moïse, est-ce que Dieu vraiment a eu l'intention de détruire tout Israël et de recommencer avec Moïse ? pas du tout. Donc Dieu donne une parole forte, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est pas ce qu'il est, c'est pas juste la forme, c'est même pas juste le contenu qui est là. C'est son but, c'est de tester le cœur de Moïse. Et il voulait voir est-ce que Moïse allait aimer le peuple de Dieu au point de vouloir se faire rayer lui-même du livre de vie. Et de tenter de faire tout son possible pour que la colère de Dieu se calme. Et on peut recevoir des choses aussi qui vont être pour tester notre cœur et de voir est-ce qu'on a la bonne attitude, est-ce que notre cœur reste droit. Et après on va se dire, mais qu'est-ce qu'il s'est passé quoi ? Enfin, il n'y a pas de réalisation, il y a... Et puis Dieu s'est servi de ça pour nous tester. Un autre exemple, c'est Agabus qui dit à Paul, il prend une ceinture, sa ceinture, à un moment donné, il dit « Celui à qui ça appartient va être emprisonné, etc. » Et soit Paul aurait pu dire « Oulala, faut pas que j'aille à Rome. » Ou soit Paul pouvait dire « Bon, on me prévient qu'il va se passer quelque chose de désagréable, mais quelle est la volonté de Dieu ?» Et si Paul avait été dans la crainte, c'était tester son cœur. Si Paul avait été dans la crainte, il aurait pu dire bah, « Non, moi j'ai pas envie, et puis je vais faire autre chose, je vais aller ailleurs. » En fait, le fait d'être prévenu par Agabus de ce qui allait lui arriver, c'était aussi, c'est une manière de le prévenir, mais c'est aussi une manière de voir est-ce que Paul est prêt au sacrifice, encore un sacrifice de plus, on dira, parce que le pauvre, il n'a pas eu la vie facile. Et c'était une manière aussi de tester son cœur. Alors, au-delà de ces mauvaises prophéties, je vais juste, en résumé, parler de ce qui est des faux prophètes. Jérémie 29, 8, au verset 9 plutôt. « Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. » Et dans Ésaïe 44, il dit « J'anéantis les signes des prophètes de mensonge. » Et ça continue dans le Nouveau Testament. Acte 13, verset 6. « Ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. » 2 Pierre 2, 1 nous dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Donc, on voit que dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il y a des personnes qui, plus que de donner des prophéties avec des erreurs, plus que de donner des fausses prophéties, ils sont de faux prophètes. Et ce qui fait la différence entre nous qui pouvons donner des choses pas forcément totalement justes et un faux prophète, ça va être l'intention et le cœur. Un prophète qui prophétise le mensonge, et même un faux prophète peut dire des choses vraies. Un faux prophète peut donner des vraies prophéties, mais avec un mauvais cœur, avec une mauvaise intention, une mauvaise motivation. Et c'est un peu Balaam qui a prophétisé la bénédiction sur Israël en voulant, en cherchant à détruire Israël. En disant au roi, à l'ennemi, je ne sais plus lequel c'était, en lui suggérant d'aller envoyer des vierges auprès du peuple d'Israël pour les corrompre. En manigançant des choses comme ça, il a été dire des vraies prophéties pour bénir Israël. Donc, il était faux prophète et son cœur était mauvais. C'est là l'essentiel. Les prophètes semblent bons, mais ils sont comme des loups. On voit aussi les fruits d'un faux prophète qui vont être mauvais, parce qu'ils viennent d'un cœur mauvais. Ils disent agir par le nom de Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. On a des versets, je ne les ai pas tous indiqués ici, où ils disent, il y en a un que j'ai dû mettre, je ne l'ai plus sous les yeux, qui dit « Mais nous avons prophétisé en ton nom. » Et Jésus dit « Mais je ne vous connais pas. » Les faux prophètes ont un système de croyance qui va être basé sur des parties de la Bible. Et ils vont un peu être comme des gourous à vouloir prendre le contrôle de la vie des gens. Et là où on disait que la prophétie sert à amener les gens vers Dieu et vers le peuple de Dieu, ben les faux prophètes vont travailler à éloigner les gens de Dieu et de sa volonté. Du coup, comment faire la différence? Ben voilà, regarder les fruits, sonder les motivations et user du discernement des esprits et de ce que le Saint-Esprit peut nous révéler pour démasquer ces personnes qui peuvent chercher à venir dans les assemblées pour détourner. Pour faire sortir les gens de la volonté de Dieu. Et donc, je pense malheureusement qu'avec le réveil qui vient, avec les choses qu'on va vivre de plus en plus prophétiques, il y a aussi de plus en plus de faux prophètes. Et c'est une invitation à aiguiser notre discernement en communauté, dans le peuple de Dieu en général, à être vigilant et à avoir ce discernement et à se permettre de juger selon Dieu. Est-ce que les personnes sont avec des bonnes intentions ou des mauvaises intentions envers le peuple de Dieu? Il y a quelques éléments qui peuvent aussi nous aider à se dire « Tiens, cette personne qui voilà, agit un peu comme un prophète, mais il y a des choses bizarres. Qu'est-ce qui peut nous aider aussi? Des petites indications comme quoi cette personne est un faux prophète. Est-ce que cette personne déclare facilement l'œuvre du Christ? Ou est-ce qu'elle a du mal à mettre Jésus-Christ en premier? Est-ce que cette personne se fait reprendre facilement, ou est-ce qu'elle n'aime pas qu'on remette en cause son autorité, son don, son appel? Est-ce que on voit se transmettre l'amour au travers de ce que cette personne vit et dit ou pas? Là, il y a des versets que je vous les donne pas tous, mais dans 1 Jean 4, au verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Les faux prophètes vont être dans ce mensonge, en disant « oui, j'aime Dieu, j'ai une parole pour toi ». Mais en fait, cette parole va être une fausse prophétie. Les faux prophètes utilisent régulièrement la peur pour motiver les gens, avec de la condamnation. Là, comme je disais, la manière d'apporter des paroles « négatives », entre guillemets, d'une manière constructive pour les gens. Le faux prophète va souvent être là pour condamner et laisser les gens dans leur culpabilité. Et puis, un dernier point, les faux prophètes ne sont pas dans la relation d'alliance avec le corps du Christ. C'est des personnes qui vont être instables dans les assemblées qu'elles peuvent traverser. Donc, Il y a des fausses prophéties, il y a des faux prophètes, et puis on peut tous faire des erreurs, donc soyons sans condamnation, sans jugement, dans l'écoute de ce que le Saint-Esprit peut aussi nous dire sur les uns et sur les autres pour qu'on puisse aller aider tout un chacun. Et si on se rend compte qu'une personne est dans certains de ses défauts, de la fausse prophétie, comme c'est dit bibliquement, c'est notre rôle en tant que frère, en tant que sœur, d'aller le voir et de dire « je pense que tu n'es pas dans le vrai, dans quelque chose de juste, et Dieu t'appelle à mieux que ça ». C'est, je ne veux pas dire un péché comme un autre, mais ça demande à être repris pour que la personne puisse s'engager dans quelque chose qui soit meilleur pour elle et pour les autres. C'est pas un péché comme un autre, entre guillemets, même si c'est grave de parler de la part de Dieu, de dire qu'on parle de la part de Dieu et puis de, alors que c'est faux. Les conséquences des fausses prophéties, Jérémie 29, 22 dit « On se servira de leur nom, le nom des faux prophètes, dans des formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda. Cela arrivera parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël. Ils ont commis l'adultère avec les femmes de leur prochain et ils ont prophétisé en mon nom des mensonges. Il ne faut pas que ça nous freine en disant « Oh là là, si je donne une fausse prophétie, je suis maudit. » C'est pas ça. Mais il faut être attentif à ce que nos paroles, les prophéties qu'on va pouvoir partager soient le plus possible, le plus proche de la vérité. Et que dès qu'on sent qu'on peut être animé par quelque chose de négatif, vaut mieux se taire que d'aller dire quelque chose qui va être empreint d'un certain mensonge. Ézéchiel 13, 3 nous dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. » Ça, c'est la conséquence pour ceux qui restent dans ce péché de la fausse prophétie. Il y a aussi malheureusement une conséquence pour ceux qui vont croire aux fausses prophéties. 2 Pierre 2, 15 nous dit « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. » Donc il y a Balaam, le faux prophète, et puis il y a ceux qui ont quitté le droit chemin, qui se sont égarés en suivant le faux prophète. Et donc là où nous avons à être vigilants, dans ce discernement des fausses prophéties, c'est justement de s'appliquer à savoir ce qui vient de Dieu, parce que le reste risque de nous égarer si on suit des fausses prophéties. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette session sur la manière de gérer, de donner des paroles, de gérer ce qu'on reçoit, de discerner. Ça fait peut-être beaucoup, ça va dans pas mal de directions. On a eu les deux sessions précédentes de présentation et le côté plus pratique. Je suis assez fier de terminer à 18h00 comme c'était prévu. Mais on peut se permettre un temps de questions-réponses si vous avez des choses qui n'ont pas été abordées ou trop vite, à savoir que c'est tellement large qu'on pourrait encore parler longtemps et qu'on a aussi une belle session à vivre tout à l'heure, dès 19h, donc ça va être vite venu. Le micro est à vous si vous avez deux, trois questions, et puis sinon tant mieux.
Est-ce que une personne qui reçoit donc les dons de prophétie fréquemment, donc il développe ses dons, est-ce qu'on peut dire qu'à un certain moment il est devenu prophète?
Quand j'ai développé la question à la deuxième session, quelqu'un peut prophétiser tous les jours beaucoup de choses très précises. Il a du coup un don prophétique très aiguisé. Mais si Dieu ne l'a pas appelé à exercer le ministère de prophète, il faut éviter de prendre ce titre de prophète qui décrit dans la Bible vraiment l'appel au ministère. Après, c'est pas pour ça qu'on fait quelque chose de mal, mais je veux dire, c'est pas la quantité et la qualité des prophéties qui déterminent l'appel et la destinée d'une personne. Et on peut tout à fait avoir quelqu'un qui est à 10 ans, reçoit une parole prophétique qui lui dit « Toi, tu es appelé au ministère de prophète. » Il n'a jamais prophétisé. C'est Dieu qui appelle. Dès le ventre de notre mère, on a notre appel qui est là, avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas la quantité, la qualité de ce qu'on va pouvoir vivre dans le prophétique qui va déterminer l'appel à un ministère. Après, je vais dire que quelqu'un est prophète parce qu'il prophétise beaucoup et qu'il prophétise bien, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que ce soit synonyme d'appel au ministère dans le sens d'Éphésiens 4, parce que ce n'est pas juste par rapport à la personne dans son identité, dans la place que Dieu lui donne, et par rapport au corps du Christ qui doit savoir qui est appelé à quoi. Ça répond à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses.
Est-ce que tu fais la différence, est-ce qu'il y en a une, entre par exemple prophétiser par la foi, comme tu sais la prière de la foi qui va guérir le malade, sans forcément que la personne ait reçu un don de guérison? Est-ce qu'il y a une analogie avec le fait de prophétiser par la foi en ayant exercé ça sans avoir forcément reçu un don de prophétie? Toi, comme le fait de, pour les malades, Jacques qui va dire la prière de la foi guérit le malade. Or, ça ne veut pas dire que la personne a reçu un don de guérison pour manifester ça. Est-ce qu'on peut avoir la même comparaison ou ce n'est pas possible avec l'aspect prophétique de prophétiser mais sans avoir reçu le don de la prophétie? Je sais
pas si c'est clair. Oui, oui. En fait, du coup, vous pouvez tous prophétiser. Le Saint-Esprit peut servir de tout le monde pour donner une parole prophétique. Vous pouvez tous prier pour guérir les malades, mais vous n'avez pas tous le don de guérison. Vous pouvez tous prêcher, mais vous n'avez pas forcément l'appel d'enseignant ou de docteur. Vous pouvez tous faire du pastorat, mais vous n'êtes pas tous appelés à être pasteur. Donc, on peut tout à fait... le Saint-Esprit nous utilise. Il faut qu'on soit disponible pour faire ce que le Saint-Esprit nous appelle à faire. Et quand on avait cet extrait de vidéo ce matin où la personne est dans la rue et reçoit prophétiquement les problèmes de santé de la personne, et du coup ça lui permet de prier efficacement pour la guérison. Et on peut s'imaginer que ce gars n'ait pas une connaissance prophétique des problèmes de santé, que la dame ait dit « moi j'ai mal au genou, je prie pour votre genou ». Mais le don de guérison permet que la guérison soit là. Donc il y a des dons spirituels et on doit aspirer finalement d'accord à la prophétie, mais je pense qu'on doit aspirer à en avoir un maximum. C'est... un équipement après l'autre qu'on peut accumuler durant notre vie et on augmente l'efficacité. Du coup, oui. Comme je disais, avec les niveaux dans le prophétique, on peut recevoir quelque chose, une prophétie très ciblée, très claire. C'est un peu ce qu'on... Je discutais de ça avec la famille. Cette personne qui a converti qu'un seul gars dans sa vie. Et on peut se dire, il n'a pas été très efficace pour le royaume. On peut dire, pareil, une personne qui a prophétisé une fois dans sa vie, on peut se dire, bon, c'est pas très efficace. La personne qui l'a converti, c'est Billy Graham. L'efficacité de ce qu'on va faire pour Dieu, ça ne va pas être par rapport à la quantité ou à la qualité, ça va être par rapport à l'obéissance.
Monsieur, je pose une question. J'ai bien aimé quand tu as parlé de l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, de le fait d'aller voir quelqu'un d'autre pour demander conseil, finalement, à un autre prophète. Parce que moi, pendant longtemps, je voyais pas ça comme ça. Pour moi, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, c'était que si je prophétise, enfin, la pensée prophétique, elle m'est soumise à moi, et je peux la porter d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que je peux, comme tu disais à un moment donné, dire juste, par exemple, j'ai reçu un mot, par exemple, hein, et puis vous avoir envie de développer, alors que c'était pas ce que le Seigneur voulait. Et donc, je voyais plutôt ce verset dans ce sens. Il faut faire attention à ce que je donne la bonne parole et que j'en rajoute pas. Donc l'esprit des prophètes, enfin l'esprit est soumis à moi ce que je vais dire finalement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, c'est. Alors je ne sais pas ce que tu penses si on peut aussi dire l'interpréter comme ça.
Il y a l'esprit. L'esprit de prophétie qui va nous permettre de recevoir et qui va nous permettre d'analyser, de discerner. Et en effet, on peut comprendre que en ayant ce don de prophétie, ça nous permet de faire le tri entre guillemets de ce qu'on a en tête et puis de savoir ce qui est prophétique et ce qui n'est pas prophétique. Après, je pense vraiment qu'il y a une signification dans ce verset d'intersoumission des esprits prophétiques qu'il y a sur les uns et sur les autres. On peut l'interpréter des deux manières. Oui. C'est votre dernier mot ? Alors, on aura encore pas mal de mots, on va les chanter d'ailleurs, d'ici une heure. Et c'est ça, 19h, on est ici pour pouvoir comprendre et puis vivre la louange prophétique. Donc ça va être différent, on va être en musique et on va se laisser porter par le Saint-Esprit dans ce qu'il veut qu'on vive ensemble, dans l'adoration et puis dans la proclamation de ce qu'il veut qu'on puisse dire prophétiquement dans nos chants. Voilà, on aura le plaisir d'avoir Karel.